France Musique. Musicopolis. Mahler, Vienne, 1907. Tous ceux qui ont rencontré Gustav Mahler insistent sur sa personnalité hors du commun. Prenons par exemple le témoignage d'Oscar Fried, chef d'orchestre berlinois venu demander conseil au compositeur avant de diriger la deuxième symphonie. Son regard, écrit-il, qui traversait tout et qui mettait à nu le plus secret, sa belle voix d'airain si profonde, sa bouche dont le dessin si noble exprimait une énergie inébranlable et dont la ligne presque féminine témoignait d'une chaleur et d'une bonté profonde, et enfin l'intensité des gestes et de l'ensemble de son apparence, tout cela le rendait pour moi irrésistible. À propos du travail avec l'orchestre ou les chanteurs, Mahler a coutume de dire « il en est de la musique comme de la Bible. Sans une observance minutieuse des détails, il n'y a pas d'interprétation musicale ». Cependant, son style de direction a changé avec les années. Un témoin raconte comment, jeune chef, il lançait hardiment la jambe gauche contre le pupitre, tendant la paume de la main gauche largement ouverte vers les altos, car tels étaient ses gestes étranges et subjugants. « Venez, violon, venez, violoncelle, venez donc, venez, venez, viens, basson, je ne te ferai pas de mal, plus près, n'aie pas peur. » Un autre geste était le coup lancé d'en haut, qui fendait l'air vers la percussion. Le geste perçant, chirurgical, comme un bistouri, pour indiquer sur la scène une entrée dans un ensemble. Le dessin tendre et presque consolant de la mélodie, avec le cou, les épaules et le menton. Le saut volcanique, presque satanique, hors de la chaise pour un point culminant du rythme ou du drame. Les trois pointes de doigts vibrantes, exaltées, lorsqu'il s'agissait de chanter jusqu'au bout la joie ou la douleur de l'humanité. Un ami de Mahler écrit « Dans les dernières années de sa vie, j'ai remarqué un très net adoucissement des contrastes dans sa battue. Le pagayage frénétique avec la baguette lui était tout à fait étranger. Ses mouvements de baguette étaient précis, mais d'une étendue très limitée. Il obtenait bien plus d'effet avec les signes de sa main libre, de ses yeux et de ses lèvres. Sous sa direction, l'exactitude de l'ensemble était une nécessité inéluctable. » Mahler lui-même remarque « Les bras ne sont absolument pas indispensables pour diriger. Si je n'étais pas obligé de porter des lunettes, je ne dirigerais qu'avec mes yeux. » D'ailleurs, encore jeune chef, il s'est fait couper la barbe pour diriger avec son visage tout entier.
Thank you.
mois de février 1907, la cabale de la presse viennoise contre Mahler se renforce après qu'il ait pris publiquement la défense de Schönberg lors de la création du Quatuor Opus 7 et de la Symphonie de Chambre Opus 9. Mahler paraît alors aux yeux de ses détracteurs comme un chef de clique, l'ami et le conseiller de la muse schönbergienne. On l'accuse même de propagande théâtrale en faveur d'une dégénérescence affirmée. Cette défiance à son égard et toutes ses critiques l'empêchent de se faire jouer comme il le voudrait. Alors qu'il a terminé sa 8e symphonie pendant l'été 1906, il devra attendre 1910 pour enfin pouvoir l'entendre. Et encore, même pas à Vienne, puisque la première aura lieu à Munich. Une symphonie qui commence par un Veni Creator Spiritus dont il dit « Je veux qu'aucun auditeur ne puisse lui résister. Je veux qu'il terrasse chacun d'entre eux. » Et à propos du Chorus Mysticus qui forme l'immense deuxième partie, « Imaginez-vous que l'univers se mette à chanter et à bruire. Ce ne sont plus des voix humaines, mais des planètes et des soleils qui tournent. » Parmi les critiques de Vienne, il en est un qui soutient généralement Mahler, même s'il ne comprend pas toujours sa musique. C'est Julius Korngold, le père du compositeur qui n'a encore que 8 ans, mais qui promet déjà. Pour répondre à toutes les attaques qui s'exercent contre le directeur de l'opéra, Korngold publie une sorte de bilan dans lequel il dresse une liste des forces et des faiblesses de Mahler. En conclusion, il fait remarquer que le principal inconvénient d'un homme aussi grand et de faire paraître en comparaison tous les autres tellement petits.
Thank you.
La rumeur d'une prochaine démission de Mahler de son poste de directeur de l'opéra a couru à Vienne depuis le mois de janvier, sans fondement pour le moment. Néanmoins, ses relations avec son supérieur hiérarchique, le grand chambellan Alfred, prince de Montenuovo, sont en train de se dégrader. Celui-ci lui reproche d'abord d'avoir choisi une danseuse pour le rôle-titre de la muette de Portici d'Aubert, sans en avoir référé au maître de ballet. Puis, le chambellan apprend que Mahler a prévu de prolonger un voyage à Rome, qu'il doit faire au moment de Pâques, sans lui en avoir référé au préalable. Et cela alors que, d'une part, Mahler demande aux chanteurs et musiciens de ne pas prendre de congé, et d'autre part, que c'est justement le principal reproche qu'on fait au directeur de l'opéra, d'être trop souvent absent. Mahler n'a pas du tout l'intention de quitter son poste de directeur. Pour le moment, il a encore beaucoup de travail avec ses productions à l'Opéra de Vienne. Depuis longtemps, il souhaite donner une nouvelle mise en scène de La Valkyrie de Richard Wagner. C'est le peintre Alfred Roller qui est chargé des décors et de la lumière. Roller choisit d'aller dans le sens du réalisme poétique, avec par exemple un immense chaos rocheux, splendide décor de gorges de montagne, dans lequel Brunhilde va pouvoir sauter de rocher en rocher, comme le demande Wagner. La chanteuse, qui incarne l'héroïne sportive de l'opéra, elle est nettement moins heureuse, et d'autant plus qu'elle trouve que les lumières de Roller sont trop parcimonieuses et empêchent le public de percevoir les traits les plus nobles de son jeu. La production de Mahler et Roller de La Valkyrie de Wagner est quasiment unanimement louée. Otto Klemperer raconte « C'était incroyable. Mahler avait lui-même réglé la mise en scène et tout maîtrisé. À la fin du feu magique, le chef d'orchestre paraissait s'élever au-dessus de lui-même. » Mahler et son décorateur Roller sont à nouveau réunis à la mi-mars 1907 pour ce qui sera leur dernière production. Ils ont repris cette fois une œuvre qui n'avait pas été donnée depuis plus de 20 ans, Iphigénie en Aulide de Gluck. On avait reproché justement à Mahler d'oublier les œuvres du chevalier Gluck, qui pourtant avait fait un temps la gloire de l'opéra de Vienne. La réussite de la production d'Iphigénie en Aulide de Gluck en mars 1907 est totale. Pour s'accorder avec le sujet antique, le décorateur Alfred Roller a choisi le dépouillement d'une vaste tente à larges plis qu'on aperçoit à travers une gaze. Les chanteurs de la troupe sont merveilleux et un témoin écrit « À une telle hauteur, il n'y avait même pas de petit rôle ». La chanteuse qui incarne Clytemnestre déclare que Mahler a donné l'exemple d'un calme classique et qu'il a réussi à discipliner son tempérament, son impétuosité, sa nervosité. Julius Korngold, lui, écrit que Roller et Mahler ont fait renaître l'âme de la Grèce. Pour la première fois, au mois de mars 1907, le grand chambellan évoque avec Mahler la possibilité d'une démission et les contreparties financières si son départ devenait effectif. Mais Mahler n'a pas l'intention de quitter son poste et pour le moment, il part pour Rome avec Alma. Le voyage commence mal parce que leurs bagages se sont perdus avec toutes les tenues, y compris de concert, et toutes les partitions à diriger. Tout rentrera dans l'ordre à temps et Mahler pourra diriger Beethoven, Tchaïkovski, Weber et l'Adagietto de sa 5e symphonie. Thank you. Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler, l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Willem Mengelberg. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Béatrice Trichet pour la réalisation, Cédric Châtelus pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.